Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.
Bonjour, on est sur court-circuit, Kader au micro, et je suis accompagné de personnes. Je vous laisse vous présenter. Qui êtes-vous ?
Alors moi c'est Manu, donc je suis maraîcher à Saint-Savin.
D'accord, Manu, bonjour.
Alexandra, maraîchère aussi à Saint-Savin.
Et donc là, si je vous reçois, c'est pour les jardins de Gassotte, si je ne me trompe pas ?
Tout à fait, oui.
Je suis bon, j'ai pris des bonnes notes. Et donc, qu'est-ce que les jardins de Gassotte ? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus ?
Les jardins de la Gassotte.
De la Gassotte, pardon.
Les jardins de la Gassotte, c'est né il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant. On s'est installé en maraîchage, Manu et moi, mais de façon individuelle.
D'accord.
Chacun de notre côté. Et on avait commencé à vendre dans le quartier de la Gassotte à Saint-Savin. Donc c'est pour ça que ça s'est appelé les jardins de la Gassotte.
D'accord.
Et depuis, on a créé un GAEC, donc on s'est associé et on a gardé ce nom des Jardins de la Gassotte.
D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'un GAEC, pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors un GAEC, c'est un groupement d'activités, GAEC, d'exploitation en commun. Ouais.
D'accord.
Voilà.
Oui, donc c'est pour vous permettre peut-être de partager les charges plus facilement ou...
C'est une structure juridique qui est propre au milieu agricole, en fait.
Ok, d'accord. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes maraîcher, que vous travaillez, que vous vivez de ce métier ?
Depuis 2018 à peu près.
2018 ? Mmh. Et vous proposez quel type de plantation, de légumes, de fruits ?
C'est les légumes classiques. On a à peu près 35 variétés, de la patate à la carotte, en passant par la patate douce, les tomates, salades, poireaux, enfin le classique du genre, quoi.
D'accord. Et vous avez rencontré pas trop de difficultés au niveau des terres agricoles de la région, ou c'est est-ce que vous avez des difficultés ou pas sur
C'est pas forcément évident de trouver. Il y a beaucoup de gens qui cherchent du terrain et qu'on trouve pas facilement. Nous, on a eu un peu de chance. Bon, on demandait pas beaucoup en surface, donc on a trouvé assez facilement. Mais c'est sûr que trouver du terrain agricole, c'est compliqué. Ouais.
Parce que là, actuellement, vous avez combien de mètres carrés ?
On a 1,2 hectare à peu près.
D'accord.
Sur plusieurs parcelles, mais on cultive essentiellement sur une parcelle qui fait 8000 mètres carrés. En fait, voilà.
D'accord. Et au niveau donc justement de ce que vous proposez, de la partie commercialisation, vous vendez aux particuliers, vous vendez aux restaurants, supermarchés ?
Alors c'est uniquement en vente directe.
D'accord.
On fait le marché de Saint-Savin le vendredi matin.
D'accord.
Le marché du Blanc le samedi matin.
Mmh.
Et on vend aussi à la maison, donc à la Gassotte, le mardi soir. Mais ça, pas toute la saison, en fait. Enfin, plutôt avril, décembre, quoi.
Oui, sur les beaux jours l'hiver, d'accord. Et justement, pourquoi cette coupure entre décembre et avril ?
Parce qu'on a moins de choses à proposer, moins de choix. Par contre, j'ai oublié, on vend aussi au Bon Coin Paysan à Chauvigny.
D'accord.
Et à Gaïa,
au Blanc.
C'est un magasin de producteurs bio.
D'accord.
Au Blanc.
Ok. Ah, intéressant.
Voilà. Et on participe aussi à un CIVAM, Mon Plateau. Alors CIVAM, je ne vais pas vous donner le sigle parce que je ne le connais pas. Mais c'est ceux qui organisent de ferme en ferme, notamment.
D'accord.
Et Mon Plateau, c'est un regroupement de producteurs, maraîchers, éleveurs qui fournissent la restauration hors domicile.
D'accord.
Collective, restauration privée et restauration de cantine, etc. Mmh. Et depuis 2 ans, 3 ans même, fournissent les banques alimentaires, que ce soit les CCAS, les Restos du Cœur et d'autres. Et nous, on fournit celui de Saint-Savin.
D'accord.
Voilà.
Et justement, sur le fait de proposer de tels produits, ça a été un choix de votre part ou c'est vous dans vos recherches, vous avez dit « Ah bah, on veut aller dans telle action, ça nous intéresse » ou c'est plutôt venu à vous ?
La commercialisation, vous voulez dire ?
Oui, vers pour la partie justement banque alimentaire.
Nous chercher pour la banque alimentaire. C'est des gens qui ont proposé du CIVAM, qui ont proposé. Nous, on fait pas mal d'actions avec le CIVAM de formation, parce qu'ils proposaient des choses de formation. Donc, du coup, on les a rencontrés comme ça, et du coup, ils ont créé ce Mon Plateau qui fait que par le lien, on s'est rencontrés. Et du coup,
c'est comme ça.
C'est eux qui sont venus nous chercher, quoi.
D'accord. Et au niveau de, bah justement de votre métier, je vais rentrer un peu plus dedans. C'est quoi la vie de maraîcher? Comment ça se compose? On sait tous que vous vous levez à 14h, on le sait.
Ah, c'est ça, on suit à peu près le rythme diurne au maximum. Et donc plus les jours sont longs, plus il y a du travail en gros. Parce que tout se met à pousser en même temps, donc il y a plein mal de choses. Après l'hiver, c'est plutôt plus tranquille à partir de la Toussaint jusqu'à fin février, on est sur un rythme beaucoup plus calme. Mais bon, en gros, on suit le rythme diurne, en gros. Voilà.
Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Là, vous me dites que ça va faire depuis 2018 que vous êtes sur ce métier-là. Donc, vous avez pu voir justement les évolutions, parce que là, on est en 2025. Comment vous les avez traversées et quelles sont les plus grosses difficultés que vous rencontrez qui n'ont peut-être même jamais bougé et qui n'ont pas changé, justement, bah, peut-être le rapport qu'il y a. Là, c'est peut-être un point de vue tronqué ou enfin trompeur que j'ai du rapport des règles liées à l'Europe et les règles à la France. Et je ne sais pas si vous, ça vous impacte ou pas.
Moi, personnellement, je ne me sens pas concerné par ce genre d'histoire, l'Europe, la France. On produit des légumes, point, on essaie de les vendre. Pour moi, la plus grande difficulté, c'est le climat.
D'accord.
Déjà. Et la deuxième, c'est la commercialisation. En fait, on est beaucoup on est pas mal à proposer des légumes de jardin, propres, bio et tout ça, et les consommateurs sont pas forcément là au rendez-vous. Donc nous, par exemple, on est obligé de vendre sur 4 lieux différents, voire 5 si on compte le CIVAM, pour arriver à écouler notre production, qui est pas énorme, qui nous suffit à nous, mais donc on a un vrai souci de commercialisation. D'ailleurs, même les jeunes qui s'installent en maraîcher, on leur conseille de même pas aller sur les marchés, parce que c'est saturé. Il y a trop de monde et il n'y a pas assez de commerce de consommateurs.
Et justement, comment on pourrait faire pour vous aider? Ou est-ce que vous avez des pistes qui pourraient peut-être vous aider? Des pistes que l'État pourrait pousser pour vous aider un peu plus?
La politique, là.
je lance sur un mauvais sujet, peut-être.
Non, mais du coup, voilà, nous, si on parle de ça, nous, on fait partie de la Confédération Paysanne, donc on a une façon de voir les choses qui fait qu'on voudrait que ça change, le rapport change. Bah, plus de soutien, plus de souveraineté alimentaire et plus de soutien au niveau de la consommation, des choses comme ça, pour permettre aux gens d'acheter aussi, parce que c'est vrai que nous, on est sûrement un peu plus cher que des gros légumiers et tout ça, mais c'est tout le problème, c'est de pas être trop cher, d'être suffisamment pour que nous, on puisse en vivre.
Oui, parce que c'est pour faire moins cher que vous n'en vivez pas, il n'y a pas d'intérêt, c'est autant arrêter. Donc c'est vrai que le juste milieu est compliqué à trouver pour eux, et c'est vrai que ce serait plus intéressant que l'État, alors moi, de mon point de vue, c'est vrai que déjà que l'État taxe un peu plus le non-bio, mais après qu'il y ait moins de taxes pour tout ce qui est agriculteur français, justement pour réduire et pour pousser à la consommation et que voilà, la taxe sur la nourriture soit même vraiment, enfin la TVA sur la nourriture soit encore baissée pour justement pousser à la consommation.
Après, le prix des légumes que nous on produit, le prix des légumes bio, c'est un prix qui nous permet de vivre, qui nous rémunère. Le problème des légumes qui vont être peu chers et produits en conventionnel, la société ne prend pas en compte le fait que ces légumes-là ont été transportés, ont probablement pollué les nappes phréatiques, et que tout ça, c'est un coût pour la société. Alors oui, c'est pas compris dans le prix du légume. Les gens, ils achètent des légumes pas chers, mais à côté, il y a des...
Ils le payent autrement.
Et on le paye autrement. Donc c'est ce que disait Manu, c'est un choix de société, c'est un choix politique, et pour l'instant, on n'y est pas, quoi.
C'est une longue bataille. En tout cas, je suis soutien de tout cœur. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On le voit, que ce soit au niveau de l'agriculture maraîchère ou même au niveau des éleveurs, c'est à chaque fois, on va dire, David contre Goliath. Et en ce moment, Goliath est beaucoup aidé. par rapport à David.
Je pense que les éleveurs, c'est encore pire. Hein. La viande et tout. Arriver à vendre de la viande de bonne qualité à un prix relativement correct pour pouvoir être acheté, c'est compliqué. Je pense que pour eux, ça doit être vraiment beaucoup plus dur que nous encore.
Ah bah, surtout si on n'a pas les moyens de pouvoir auto-nourrir les animaux, c'est-à-dire que d'avoir en côté son propre champ céréales ou autre, c'est ça complique la chose. Si on doit acheter à côté, quand on voit la concurrence à côté qui commence à s'installer, et je ne sais pas si ça a été voté. Donc, je ne vais pas m'avancer sur le côté le Mercosur, mais Mercosud, pardon.
Mercosur.
Ouais, Mercosur. Donc j'avais bon dessus. Je ne sais pas si ça a été acté ou non, mais c'est des choses qui les impactent. Mais c'est l'agriculture commence à être trop politisée dans le fait où on peut plus vivre comme on souhaite.
Trop politique, qu'est-ce que tu
trop
veux
politisé,
dire,
en fait, pour moi, c'est trop politisé dans le fait où on bride de plus en plus les agriculteurs et on leur offre plus de soupapes pour respirer. Et c'est toujours de se donner. Et, c'est compliqué. Enfin, moi, dans ma famille, donc j'ai de la famille en Bretagne, en Normandie, donc j'ai beaucoup d'éleveurs et autres. Et j'ai très souvent l'impression où ils sont en mode survie. Il n'y a plus le côté je vis. Donc il y a quand même des petits instants, des petits moments de vie comme les mariages et autres. Mais sinon, c'est à 100% dedans et pas de vacances et autres. Et ça a l'air d'être de plus en plus compliqué.
Oui. Après, nous, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Nous, on est plutôt. On revendique une paysannerie heureuse. Enfin, la Confédération paysanne qui dit ça. Mais. Nous, on a pris un modèle qui nous coûte peu d'argent à l'année. C'est-à-dire qu'on est assez résilient dans le fait où, avec une petite somme, on arrive à faire vivre notre boutique pour pouvoir après vendre et produire des légumes. Donc, on n'a pas de dette, on n'est pas en survie, nous. Mm-hmm. On a décidé de vivre avec peu, par contre. Ça, c'est ça notre choix politique. Mais on est très heureux de faire ce qu'on fait. À part le problème de la commercialisation et du climat qui va devenir de plus en plus prégnant, évidemment. Mmh. L'année dernière, nous, on a été inondés, on a pris la grêle. Cette année, on va sûrement avoir des canicules. C'est ça qui va être très dur pour nous. Comme on est une petite structure et qu'on a très peu d'investissements chaque année, même si on a des pertes, on peut tenir. C'est notre pari, c'est notre prix.
Le parti pris politique
par rapport à ça. On n'est pas du tout dans ces registres d'être endetté, d'être en sur-régime. Okay. Je crois que c'est un mot très profond de l'agriculture en général. C'est pas que français d'ailleurs. Mm. Et je pense qu'en maraîchage, il y a de plus en plus de gens qui s'installent comme nous. Enfin, ça devient très classique de faire des. On est sur petite surface, on essaye de produire au maximum sur la petite surface.
D'accord.
Et on fait beaucoup à la main, on est très peu mécanisé. Donc ça nous permet quand même de produire pas mal. Et c'est vrai qu'on dit. Maintenant, on commence à avoir du bagage. Et les gens qui sont un peu limités, qui viennent voir ce qu'on fait, ils trouvent que c'est pas mal parce qu'on a un bon chiffre d'affaires par rapport à la surface. Et etc, etc.
D'accord. Donc. Et justement, là, le fait... j'ai entendu, donc... je vais revenir un peu sur le CIVAM. Mais il y a toute cette entraide entre employer le terme fermé pour englober tout le monde. Comment vous vous formez, comment vous maintenez, entre guillemets, toujours avec les connaissances actuelles? Est-ce que c'est simplement par le CIVAM ou... de vous-même, de toute façon, vous allez chercher de la connaissance, certes sur Internet, mais aussi à l'étranger, ailleurs, et pas qu'en France, pour voir comment...
Déjà, nous, nos deux références maraîchères, c'est un Américain et un Québécois.
D'accord. Qui sont
Ça
peut intéresser tout le monde.
Jean-Quentin Fortier, Jean-Martin Fortier. Donc lui, c'est la star du maraîchage intensif sur petite surface. Qui est super pédagogue, donc c'est vrai que nous on va dire qu'on est autodidacte et c'est par ces gens-là qu'on a appris à produire quoi.
D'accord.
Et il y a Elliot Coleman, alors lui c'est l'ancien qui a formé un peu Fortier, donc lui il est américain, il est dans le Maine aux États-Unis.
D'accord.
Et eux-mêmes se sont inspirés des maraîchers parisiens. En fait, le maraîchage sur petite surface vient de Paris. puisque, puisque il n'y avait que des petites surfaces à Paris, évidemment.
Ouais.
Donc, du coup, ils ont appris à produire beaucoup sur petites surfaces. Ils récupéraient, alors c'est tout un système, ils récupéraient tout, à la grande de la Villette, c'était la boucherie à l'époque, c'était l'abattoir, pardon. Et ils récupéraient le fumier, par exemple, des chevaux et tout ça, et du coup, des vaches, et puis ils les ramenaient dans leur jardin. Alors, on parle des maraîchers, en fait, le terme maraîcher, ça vient de marais, parce que les premiers maraîchers, c'est des marais de Paris, dans le 6e, dans le sud de Paris, la rive gauche de Paris.
D'accord, ok, je vois. C'était
des grands marais avant, Saint-Germain-des-Prés, si j'ai bien compris, et tout ça, par là, et ils ont
et donc c'est par là que ça commençait.
C'est par là qu'on a un peu développé donc, le maraîchage comme ça, ouais.
Et après, votre, vous-même, vous partagez votre savoir que par le, enfin, avec d'autres personnes que via le CIVAM, ou vous-même, vous faites des formations.
Cet hiver, on a organisé entre maraîchers une tournée de serres pour voir un peu ce qu'ils avaient dans les serres.
D'accord.
Après,
après le CIVAM, on participe à des formations que propose le CIVAM ou que nous-mêmes, on demande à avoir avec le CIVAM. En ce moment, on est sur les sols, par exemple, à comment maintenir la fertilité des sols.
D'accord.
Ça peut être des thématiques.
C'est différentes thématiques. Après,
c'est différentes thématiques selon les années.
Il y a eu la communication, des choses comme ça.
Il y a plein de sujets. Après, vous partagez entre vous. Et,
Mais souvent, on fait venir un formateur. En fait, le CIVAM nous permet
d'avoir
un financement pour qu'un formateur vienne un jour, deux jours, voire plusieurs années. Et du coup, ça crée des groupes à l'intérieur du CIVAM. Il y a le groupe maraîchage, il y a le groupe grande culture, il y a le groupe élevage.
D'accord.
Et entre maraîchers du Mont-Morillonnais, du Châtel-Rodet, nous on est entre les deux, ça crée un groupe qui travaille plus ou moins ensemble toute l'année au final.
D'accord.
Qui échange.
Et si.
Il faut les inviter, les CIVAM, à la radio.
Tatiana.
si vous connaissez Tatiana. Là.
Tatiana, si tu veux venir, tu es la bienvenue. Et juste, parce que quelqu'un. Enfin. Je vais reformuler autrement. Donc ça fait depuis 2018. Avant 2018, vous faisiez quoi?
Alors moi perso, je suis pas du tout du sérail. Moi j'étais dans le spectacle vivant. Donc j'ai une formation de menuisier à la base. Après j'ai dévié dans le théâtre. Voilà. J'étais parisien jusqu'en 2014.
Ok. D'accord. J'étais parisien jusqu'à il y a 3 ans. Ça fait peu pour moi encore.
Et moi, j'étais pas non plus dans l'agriculture, j'étais enseignante en maternelle. J'étais professeur des écoles.
Professeur des écoles.
Voilà.
Et justement, avec votre parcours, comment on en arrive à devenir maraîcher? Quelle a été la volonté pour. Derrière pour être maraîcher?
Moi, c'est un choix politique. Je veux plus fonctionner dans une société comme ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Tout est en train de s'effondrer. J'y vais, là, tant qu'à faire. Pour moi, ça a du lien à ma vie.
Ça a donné du sens.
Je suis avec la nature. Je produis grâce à elle. Je retrouve l'environnement. Je pense que le sens, il est là pour moi. Après, l'humanité, malheureusement. Je finirai pas ma phrase. donc moi je suis content d'avoir trouvé ça. Ça m'a sauvé personnellement.
Ouais.
Enfin pour de sauver, j'exagère évidemment. Je n'étais pas au bord du suicide, mais vraiment l'idée de participer à quelque chose qui crée de la vie, pas mortifère comme on est en train de faire, quoi.
Ouais, je vois parfaitement. Et puis c'est vraiment. Moi, comment je le vois, c'est aussi se donner un sens à soi. C'est au bout d'un moment, peut-être que des fois, on fait des métiers, on se dit, quel est l'intérêt derrière, quoi.
Sachant que moi, personnellement, pour continuer, j'étais très heureux dans ce que je faisais avant. C'était pas du tout, fallait que je quitte où j'étais parce que ça allait pas, ou j'étais malheureux, ou je sais pas quoi. J'étais très bien dans ce que je faisais. C'était juste que ça devenait un non-sens pour moi.
D'accord.
Oui, alors que moi, j'étais bien dans mon travail avant aussi. Les enfants, tout ça, c'était chouette. J'étais en maternelle. C'était très vivant. la vie a fait que j'ai eu un terrain, j'ai commencé à planter un truc, deux trucs, trois trucs, et puis on s'arrête plus. Et je me suis dit que oui, potentiellement, ça pouvait devenir un métier. Enfin, en tout cas, auquel je pouvais prétendre. Et puis voilà, ça s'est fait.
fait comme ça et c'est poursuivi.
Et c'est un peu la même chose que l'école, en fait. C'est moins bruyant.
D'ailleurs, est-ce que vous travaillez peut-être conjointement ou vous recevez peut-être des écoles pour leur montrer comment ça fonctionne et comment les enfants interagissent avec vous et avec justement la terre et l'environnement?
Alors, on reçoit l'école de Saint-Savin, notamment. Cette année, on a la classe de CE1, CE2. Mmh. Et les autres années, on a eu parfois des classes qui venaient, mais une fois, d'accord, deux fois. Là, cette classe-là a décidé de venir toute l'année, régulièrement. Et on s'envoie des nouvelles du champ ou de ce qu'eux font comme expérience. Et... Et les enfants sont vraiment intéressés, c'est-à-dire que d'une fois sur l'autre, ils se souviennent vraiment de « Ah bah oui, les tomates, elles étaient là, il n'y a plus de tomates, non, c'est plus la saison. » Et il y a un vrai échange, quoi.
Ça doit être,
c'est intéressant.
Justement, ça doit être... Moi, j'aimerais bien que mes enfants assistent à ce genre de classe. Bon, ils ont leur petit jardin de l'école, mais c'est vrai que de voir suivre à l'année, c'est à ce moment-là qu'on va retourner la terre, c'est à ce moment-là... Je schématise, ça peut être plus compliqué, mais je retourne la terre à ce moment-là, je plante, je vois pousser, je fais attention quand il faut couper. C'est justement ramener un peu le côté rapport à la nature et revenir dessus. Donc autant je trouve que quand on vit dans le milieu rural, le rapport à la nature, on l'a encore un peu. Alors que quand on vient de Paris, comme moi, nous... Enfin, c'est complètement différent. Enfin, moi, comme je dis, ça va faire 3 ans que je suis sur la région. Déjà, le soir, quand je voyais passer des cerfs, je faisais « Ah !» La première fois qu'on voit un cerf, 40 ans, « Ah !»
Ça existe.
C'est pas que dans les zoos, c'est pas que dans des parcs clôturés. C'est, on peut le revoir dans la nature. Et c'est vrai que c'est un rapport complètement différent à la nature. Je trouve que ça devrait être plus mis en valeur, plus... proposer ce genre de solution, de lien entre maraîchers, éleveurs et les écoles.
Là, en plus, l'école, donc effectivement, il y a ce lien à la saisonnalité. En plus, on n'est pas loin de l'école, donc ils peuvent venir à pied quand d'accord, ils veulent, au final. Mais c'est aussi les premières fois... ils racontent que leur grand-père a un jardin, que leur mamie a un jardin, leur voisin a un jardin. Donc, ils connaissent un peu quand même cet univers. Mais de se rendre compte que c'est un métier, un vrai métier, il y en a beaucoup qui n'avaient pas envisagé ça, en fait.
Ouais, comme possibilité.
Ah, mais... c'est un métier d'être maraîcher. En fait, on peut faire ça toute l'année, pendant plusieurs années, gagner sa vie avec.
Ouais, ça doit être vraiment intéressant d'avoir ce genre de rencontre. Malheureusement, la rencontre entre nous va bientôt se terminer. C'est bientôt la fin. Je vous remercie beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Merci aussi.
Je vais vous faire répéter. Si on a envie d'acheter vos produits, si on a envie de vous contacter, comment on fait? Par où on passe? Donc, on peut venir les mardis.
Le mardi à la maison à la Gassotte.
Le soir, c'est de 17h 16... à 19h.
Ouais, 16 rue du 8 mai à Saint-Savin.
D'accord.
Sinon, on nous trouve surtout sur les marchés, en fait. Au marché de Saint-Savin et au marché du Blanc.
D'accord, voilà. Parfait.
Vendredi et samedi et le Bon Coin Paysan.
Et le Bon Coin Paysan Chevigny.
Qui font un beau travail le jeudi et vendredi.
Jeudi et vendredi.
Voilà. Et il y avait aussi Le Blanc.
Le Blanc, c'est magasin Le Blanc. Gaïa.
Gaïa.
Comme c'est une autre région, un autre département. C'est vrai.
On en parle, on ne sait jamais. S'il y a des gens qui sont limitrophes, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup.
Merci.
Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.
Bonne journée.
Au revoir.
Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit sur ROC 103.7.